Chapitre 2, la momie. Ra, le dieu soleil, brûlait la plaine. Kay se réfugia au bord du Nil et tira sa nacelle à l'ombre des papyrus. Il souleva légèrement la clé qu'il avait tressée pour recouvrir la momie et qui donnait à la petite barque verte une allure de sarcophage. Le regard vide du mort le fit frissonner. Il en arrivait à se demander pourquoi il avait emporté cette momie. Que voulait-il en faire ? Il ne réussirait sûrement pas à la vendre. Les gens avaient trop peur du mort. Mais les morts sont inoffensifs, n'est-ce pas ? Les morts sont morts, c'est tout. Kay préférait ne pas trop y penser, et par chance, son attention fut attirée ailleurs, par un clapotis au bord de l'eau. Il s'avança silencieusement, espérant prendre un poisson, et plongea la main d'un coup. Le contact le surprit. Il faillit lâcher prise. « Un chacal ! » s'étonna-t-il. « Comment un chacal peut-il se noyer, et dans si peu d'eau ?» Ce n'est qu'à grand-peine qu'il réussit à tirer l'animal au sec. Bien mal en point, le pauvre chacal. Sur le côté de la tête, il portait une large blessure, tout un grand morceau de peau arraché. Avait-il été frappé avant d'être jeté dans l'eau ? Kay le prit par les pattes arrière et le souleva en lui maintenant la tête en bas pour lui faire rejeter l'eau qu'il avait dû avaler. Puis le coucha sur le sol et lui appuya sur le ventre. Un dernier vomissement. Le chacal souleva lourdement sa tête. « Eh bien, lui dit Kay, tu as eu de la chance de me trouver. » L'animal fixa sur lui ses grands yeux désolés, puis il laissa tomber sa tête et s'évanouit. Kay mit la main sur le poil trempé. Le cœur battait toujours. Il nettoya la blessure et allongea l'animal à l'ombre. Le mieux, pour un blessé, était de dormir. Il faisait maintenant une chaleur étouffante, et pourtant Kay sentait la faim lui tordre l'estomac. Malheureusement, la chaleur ne lui coupait jamais l'appétit. Il s'éloigna un peu pour ramasser quelques tiges et un peu d'herbe sèche, y ajouta les bouses séchées qu'il trouva alentour, et, disposant adroitement le tout sur le sol, il alluma un petit feu. La fumée monta, puis quelques flammes. Kay choisit alors autour de lui les papyrus les plus tendres, en ôta l'écorce et entreprit d'en faire griller la moelle sous la cendre. Le chacal respirait toujours, mais ne bougeait pas. Sur le Nil, les bateaux passaient lentement. Ils avaient abaissé leurs voiles, qu'aucun vent ne voulait gonfler. Et les pilotes sondaient de leurs longues perches le lit du fleuve. C'est alors que Kay remarqua une barque qui s'approchait, sans doute attirée par la fumée de son feu. Il y avait trois pêcheurs à bord. Au moment même où ils allaient accoster, le pêcheur de l'arrière releva énergiquement sa ligne pour remonter un poisson, qu'il assomma tout aussitôt de son gourdin. « Oh, garçon !» cria l'un des hommes. « Qu'est-ce que tu as dans ta barque ?»« Ce n'est pas une barque, » dit Kay méfiant. « Si ce n'en est pas une, ça y ressemble fort. Pourquoi est-ce qu'elle est couverte ?»« Montre ce qu'il y a dedans. » Kay réfléchit un instant, et il demanda. « Qu'est-ce que vous me donnez pour voir ?» L'homme regarda Kay avec un air soupçonneux. « Tu as le sens du commerce, toi !» Mais tu n'auras rien, garde donc tes secrets. » Et il repoussa le bateau vers le fleuve. « Vous avez tort !» s'écria alors Kay. « Vous n'avez jamais rien vu de pareil. » Les trois hommes se consultèrent du regard. « Dis-nous ce que c'est !» décidèrent-ils, « et nous aviserons. » « Il ne s'agit pas d'une vraie barque, » répondit Kay, « mais plutôt d'une barque funéraire. Elle renferme la momie d'un personnage très ancien et très important. « Donnez-moi le poisson que vous venez de pêcher et je vous la laisse voir. » Les trois hommes se montrèrent hésitants, réfléchirent. S'ils renonçaient, il leur resterait toujours un regret. Et après tout, des poissons, ils en avaient beaucoup. Le marché fut conclu. Alors, pour la première fois, Kay ouvrit le couvercle en grand et le soleil éclaira la momie. Les trois hommes eurent comme un mouvement de recul. Un long moment, ils demeurèrent immobiles. Enfin, ils s'éloignèrent sans avoir prononcé une parole. Kay replaça le couvercle et demeura songeur. Le spectacle semblait faire de l'effet. Il contempla son poisson, puis la momie, et se dit qu'il avait finalement bien fait de la prendre. Montreur d'une momie ancienne, voilà un métier peu fatigant. Il suffirait de marcher. Marcher. À cette pensée, Kay ramassa les morceaux d'écorce de papyrus qu'il avait laissé tomber à terre et entreprit de s'en tresser des sandales. Ainsi, le monde était à lui. Voilà comment, accompagné d'un chacal qui le suivait comme son ombre et tirant derrière lui un sarcophage de papyrus, Kay commença d'arpenter le monde. Bien sûr, son monde se limitait aux rives du fleuve. Mais le Nil était si long, que jamais personne n'en avait vu la source. La source, elle se trouvait hors de portée de l'homme, entre les mains de ce bon génie qui arrosait l'Égypte de ses bienfaits. Partout où il passait, Kay rencontrait curiosité et méfiance. La curiosité l'emportait toujours. Même avec un peu de crainte, on voulait voir le visage d'un homme qui avait vécu dans le monde d'autrefois. Et non seulement le garçon mangeait à sa faim, mais il envisageait même de s'enrichir. Et pourtant, à chaque fois qu'il soulevait le couvercle d'osier, il se sentait pris d'un petit frisson, comme si la momie risquait soudain d'ouvrir les yeux et de le regarder en face. Le soir, il en parlait au chacal. Mais le chacal ne répondait rien, se contentant de le considérer de ses yeux tristes et affectueux. Décidément, sa vie avait bien changé depuis qu'il avait pénétré dans le tombeau souterrain. D'abord, il avait trouvé un métier tranquille et ensuite un compagnon. Car ce chacal, qui n'avait au reste jamais montré aucune peur des hommes, semblait avoir toute confiance en lui. Il s'était laissé soigner sans impatience ni crainte, et maintenant la blessure qu'il portait sur le côté de la tête était complètement cicatrisée. Kay lui adressait souvent la parole comme à un ami, sans même songer qu'il n'était pas humain. Parfois même, quand il ne savait où diriger ses pas, il lui demandait conseil. Le chacal tournait alors la tête de tous côtés, humait l'air et indiquait d'un mouvement de museau la direction qui lui paraissait la meilleure pour leurs affaires. Cela suffisait au bonheur de Kay. Il n'était pas seul. Par moments, il lui arrivait d'avoir l'impression que le chacal lui parlait. Il était alors obligé de réfléchir pour constater que c'était faux. Mais quelle importance ! Il se comprenait, peut-être mieux que ceux qui échangent des mots. Or, un soir, alors que la lune était pleine, voilà que le chacal disparut sans rien dire. Inquiet et peiné, Kay l'attendit toute la nuit, et comme le dieu soleil montait dans le ciel, il se dit que son ami en avait eu assez de cette existence, et qu'il ne reviendrait plus. Le chagrin lui étreignit le cœur. Sa vie lui parut soudain vide et sans but. Il avait beau se raisonner, se dire que le chacal était libre et qu'il ne fallait pas que l'amitié soit une prison, il ne pouvait se consoler. Enfin, le garçon respira profondément, essuya ses larmes et reprit la corde qui tirait la barque. Le frottement rapide d'une course, derrière lui, fit bondir son cœur dans sa poitrine. « Le chacal !» Son soulagement fut tel qu'il se mit à rire. « Je parierais bien que tu t'es trouvé une gentille femelle dans les parages et que tu es allé lui faire ta cour. » Pour toute réponse, le chacal se lécha la patte. Mais Kay vit bien qu'il y avait de la gaieté dans ses yeux. Il se jura de ne plus se montrer aussi sot désormais et d'attendre le chacal si celui-ci s'absentait. Sa confiance dans l'animal en était soudain devenue absolue. Mais sa résolution ne servit de rien, car de ce jour-là, le chacal ne s'éloigna plus jamais. Il semblait même s'être attribué tout seul un rôle indispensable. Il accompagnait chaque pas de Kay, ne quittait pas un instant des yeux la barque funéraire et surveillait les spectateurs d'un œil attentif. Enfin, vint la nouvelle lune, qui les trouva près d'une oasis loin vers le sud. Comme d'habitude, Kay marchait sur la piste qui menait au prochain village, quand il vit venir à lui un homme grand, coupeur de cuir de son métier, qui lui donna un pot de miel pour avoir le droit de se pencher plus longuement que les autres sur la momie. Il détailla le visage émacié et, contre un poisson séché, eut même l'autorisation de toucher les bandelettes du bout de son doigt calleux. Puis il se releva et demanda « Que dit ce papyrus ?» Kay s'étonna. Il n'avait jamais osé regarder la momie assez attentivement pour s'apercevoir qu'elle portait, attachée autour du cou, un tout petit rouleau de papyrus. « Il porte le nom du pharaon, » répondit-il au hasard. Pourquoi avait-il dit pharaon ? Cet homme était forcément un personnage important, mais un pharaon. Avant que Kay n'ait pu l'en empêcher, voilà que l'homme avait saisi le papyrus et le déroulait. Le chacal dressa la tête. « Ce n'est pas un nom, » dit le coupeur de cuir. « C'est beaucoup trop long pour être un simple nom. » Kay se pencha sur le papyrus et fixa son attention sur les signes minuscules qui y étaient dessinés. « Pouvez-vous lire ce qui est écrit ? » demanda-t-il. Le coupeur de cuir éclata de rire. « Lire ? Comment saurais-je lire ? La seule chose que je puisse te dire, c'est ceci. S'il ne s'agit pas d'un nom, il est tout de même possible que le nom figure au milieu de tous ces signes. À mon avis, ce qui est écrit là, c'est l'histoire du mort, ou bien une prière, quelque chose comme ça. » Kay ne répondit rien. Il roula de nouveau le petit papyrus et le rattacha à sa place au cou de la momie. Mais dans le mouvement qu'il fit, il sentit quelque chose de dur sous les bandelettes, près du cou. Les doigts tremblants, il saisit le coin de métal brillant qui dépassait et tira. C'était une plaquette d'or, avec juste quelques signes gravés, entourés d'un cartouche. Il la tint avec précaution dans le creux de sa main, examina soigneusement les signes, puis passa son doigt dessus, comme si cela pouvait l'aider à les comprendre. Il demeura saisi. Le chacal venait de se mettre à hurler à la mort. Pris d'un sentiment de terreur subite, Kay voulut remettre l'objet en place. Mais le coupeur de cuir ne se laissait pas impressionner si vite. Il le lui ôta des mains pour regarder à son tour. Alors, devant les yeux effarés du garçon, le chacal bondit sur la plaquette d'or, la saisit entre ses dents et la mâcha violemment. Tout décontenancé, le coupeur de cuir considéra l'animal, auquel Kay intimait vainement l'ordre de rendre tout de suite l'objet, et qui, pour toute réponse, ne faisait que reculer, mordant toujours la plaquette avec une sorte de rage. Kay dut finalement presque se battre avec lui pour en avoir raison. Quand le garçon réussit enfin à récupérer la plaque d'or, le mal était fait. « C'est malin !» dit-il au chacal d'une voix un peu fâchée. « Tu as tout abîmé !» L'animal s'aplatit, la tête entre les pattes, et ne dit plus rien. Mais Kay aurait juré que dans ses yeux, il n'y avait aucun sentiment de culpabilité. À cet endroit-là, remarqua le coupeur de cuir en se penchant de nouveau sur l'objet, c'était sûrement le nom de ton pharaon qui était écrit. Bien sûr, maintenant que le chacal y a mis les dents, on ne voit plus grand-chose. Ils considérèrent tous deux, durant un long moment, ce qui restait des signes. On voyait une sorte d'oiseau, un ibis sans doute, représenté ainsi. Le reste disparaissait sous les traces de dents. Le dessin se trouve à la page 31. Si tu veux un conseil, dit l'homme, vends cet objet. Il est très ancien et c'est de l'or. Tu en tireras un bon prix. Et saluant la momie en s'inclinant très bas, il s'éloigna sur le chemin. Kay demeura immobile, contemplant la plaquette et son oiseau dessiné. Puis il la glissa doucement à la place exacte où il l'avait trouvée. Il retira sa main comme s'il s'était brûlé. Mais non, était-il sot. La momie n'avait pas bougé. Une momie ne peut pas bouger. Il allait reprendre la piste, lorsqu'il aperçut, venant vers lui, un homme qui titubait. Il observa avec inquiétude ses gestes incohérents, jusqu'à ce qu'il le voie tomber soudain. Laissant là sa momie, Kay s'approcha, se pencha sur lui. La stupéfaction se peignit sur son visage. Il connaissait cet homme, c'était un des pilleurs de tombes qui l'avait suivi. Et cet homme était mort.